Leïla Slimani.
Quand l'œuvre est une œuvre extraordinaire, elle s'impose d'une certaine manière. Il y a une évidence de l'œuvre d'art qui est absolument incontournable. Après, nous sommes dans une société médiatique où on invite les gens, on leur demande d'une certaine façon d'avoir un avis. Et donc, quand vous invitez un homme qui est accusé de faits très graves, évidemment, là, se pose un problème dans la présentation que cet homme va faire de son œuvre et de lui-même.
Ça peut pas faire de mal.
Mais pour moi, il y a une séparation entre l'œuvre d'art et l'auteur.
Et celle-là, évidemment. Elle doit tenir.
Pour moi, elle doit tenir. C'est même pas qu'elle doit tenir, c'est qu'elle tient de fait, parce que, comme je vous le disais, pour moi, l'œuvre d'art s'impose. Un très grand tableau, vous aurez beau faire, il a pu être peint par un monstre, c'est un très grand tableau.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
L'autre soir, étant rentré glacé par la neige et ne pouvant me réchauffer, comme je m'étais mis à lire dans ma chambre sous la lampe, ma vieille cuisinière me proposa de me faire une tasse de thé dont je ne prends jamais. Et le hasard fit qu'elle m'apporta quelques tranches de pain grillé. Je fis tremper le pain grillé dans la tasse de thé et au moment où je mis le pain grillé dans ma bouche et où j'eus la sensation de son amollissement contre mon palais, je ressentis un trouble, des odeurs de géranium, d'oranger, une sensation d'extraordinaire lumière, de bonheur. Je restais immobile, craignant par un seul mouvement d'arrêter ce qui se passait en moi et que je ne comprenais pas, et m'attachant toujours à ce bout de pain trempé qui semblait produire tant de merveilles, quand soudain, les cloisons ébranlées de ma mémoire cédèrent. Et ce furent les étés que je passais dans la maison de campagne, qui firent irruption dans ma conscience avec leur matin, entraînant avec eux le défilé des heures heureuses. Alors je me rappelais. Tous les jours, quand j'étais habillé, je descendais dans la chambre de mon grand-père qui venait de s'éveiller et prenait son thé. Il y trempait une biscotte et me la donnait à manger. Et quand ces étés furent passés, la sensation de la biscotte ramollie dans le thé fut un des refuges où les heures mortes, mortes pour l'intelligence, allèrent se blottir et où je ne les aurais sans doute jamais retrouvées si, ce soir d'hiver, rentré glacé par la neige, ma cuisinière ne m'avait proposé le breuvage auquel la résurrection était liée en vertu d'un pacte magique que je ne savais pas. La biscotte n'a pas encore la saveur sensuelle du petit coquillage de pâtisserie que sera la Madeleine dans La recherche du temps perdu, mais vous aurez reconnu ce génie du détail, cet art de la réminiscence qui font le style inimitable de Marcel Proust. Il y a 10 ans, je faisais mes débuts à la radio en lisant les pages comiques de La recherche. Et ce soir, comme une boucle, je vous invite à remonter aux origines de ce chef-d'œuvre à travers la lecture d'un ouvrage antérieur, inachevé et publié de manière posthume en 1952. Il s'agit d'un essai, Contre Sainte-Beuve, où l'auteur défie le plus grand critique littéraire de son époque, Charles-Augustin Sainte-Beuve. Ce que Proust lui reproche, c'est de confondre l'intelligence et le talent, l'art et la vie, et de juger l'œuvre d'un écrivain à la lumière de sa biographie. Or, le poète, l'artiste, ne se confond pas avec l'homme qu'il est. Car toute œuvre échappe à la conscience, à la volonté, au jugement moral, nous dit Proust. Car l'inspiration est une variation fragile et infinie sur la petite musique intérieure qui vibre en chacun de nous, mais qu'il est si difficile d'entendre. Dans cette quête de la phrase littéraire et musicale, j'ai le grand bonheur, le grand honneur ce soir d'être accompagné au piano par un interprète virtuose, mon ami Alexandre Tarot. Vous serez assisté par Félix Marès, musicien, élève à l'école des chefs d'orchestre de Salzbourg. Bonsoir à vous, chers auditeurs et spectateurs. Bienvenue au studio 104 de la Maison de la Radio pour cette émission spéciale, en direct, en public et enrhumée, pour la 395e émission de « Ça peut pas faire de mal ». « Avant d'aborder Sainte-Beuve, Marcel Proust nous invite à goûter aux sensations qui accompagne la résurgence des souvenirs du passé. Retrouvons le narrateur dans l'intimité de sa chambre parisienne. Rédigé entre 1906 et 1912, l'essai contre Sainte-Beuve porte déjà en lui les motifs qui sont ceux de la recherche. L'amour des trajets en train, l'évocation des visages aimés, l'écho de la musique. En 1906, Marcel Proust vient de perdre sa mère. Malade, il s'installe au 102 boulevard Haussmann dans un logement capitonné qu'il ne quittera plus pendant 13 ans. Chaque jour, l'écrivain s'adonne au même rituel. À mesure que s'éveillent ses sens, il se prépare à un voyage intérieur, un voyage imaginaire, hélas menacé par des crises d'asthme. Les premiers bruits de la rue m'apportent l'ennui de la pluie où il se morfonde, la lumière de l'air glacé où il vibre, l'abattement du brouillard qui les éteint, la douceur et les bouffées d'un jour tempétueux et tiède où l'ondée légère ne les mouille qu'à peine, vite essuyée d'un souffle ou séchée d'un rayon. Ces jours-là, surtout si le vent fait entendre dans la cheminée un irrésistible appel qui me fait plus battre le cœur qu'à une jeune fille, le roulement des voitures allant au bal où elle n'est pas invitée, le bruit de l'orchestre arrivant par la fenêtre ouverte, je voudrais avoir passé la nuit en chemin de fer, arriver au petit jour dans quelques villes de Normandie, Caubedec ou Bayeux, qui m'apparaît sous son nom et son clocher ancien, comme sous sa coiffe traditionnelle ou son bonnet de dentelle, la reine Mathilde, et partir aussitôt en promenade, au bord de la mer, en tempête, jusqu'à l'église des pêcheurs, protégée des flots qui semblent ruisseler encore dans la transparence des vitraux. Je sais qu'il pleut, et je voudrais être à Bruges, où, près du four rouge comme un soleil d'hiver, les gélines, les poules d'eau, le cochon cuiraient pour mon déjeuner comme dans un tableau de Bruegel. Je me frotte les yeux, je regarde l'heure pour voir si j'aurai le temps d'arriver à Amiens, pour voir, près de la Somme gelée, sa cathédrale, ses statues abritées du vent par les corniches adossées à son mur d'or, y dessiner au soleil de midi toute une vigne d'ombre. Parfois, un matin de printemps égaré dans l'hiver, où la crécelle du conducteur de chèvres résonne plus clair dans l'azur que la flûte d'un pasteur de Sicile, je voudrais passer le Saint-Gothard neigeux et descendre dans l'Italie en fleurs. Hélas, s'il fait beau, mes volets ont beau être hermétiquement fermés, mes yeux peuvent être clos. Une crise terrible causée précisément par le beau temps, par une jolie brume mêlée de soleil qui me fait râler, peut m'ôter, à force de souffrance, presque la connaissance. M'ôter toute possibilité de parler, je ne peux plus rien dire, je ne pense plus à rien, même le désir que la pluie mette fin à ma crise, je n'ai plus la force de me le formuler. Alors, dans ce grand silence de tout que domine le bruit de mes râles, j'entends tout au fond de moi une petite voix gaie qui dit « Il fait beau, il fait beau !» Et des larmes de souffrance me tombent des yeux. Je ne peux pas parler. Mais si je pouvais retrouver un instant le souffle, je chanterais. Quelques instants plus tard, le monde extérieur se manifeste au narrateur comme un écho à sa petite musique intérieure. De sa fenêtre, il observe le va-et-vient de la rue. Son regard s'attarde sur des silhouettes féminines qui inspireront le second tome de la recherche. Publié en 1919, il y a tout juste 100 ans, à l'ombre des jeunes filles en fleurs sera salué par le prix Goncourt. Ces silhouettes lui rappellent une autre apparition fugace lors d'un voyage en train 2 ans auparavant. Nous voici à l'aube, quelque part dans la vallée du Jura. Maintenant, sous le ciel rose, on sentait que le soleil s'était formé et que, par sa propre élasticité, il allait jaillir. Ce ciel rose me donnait un grand désir de voyage, car je l'avais vu souvent par les carreaux du wagon, après une nuit où j'avais dormi, non pas comme ici dans l'étouffement des choses renfermées et immobilisées sur moi, mais au milieu du mouvement, emporté en moi-même. Ainsi, j'avais veillé ou dormi, bercé par ces bruits du train que l'oreille accouple deux par deux, quatre par quatre à sa fantaisie, comme le son des cloches. C'est après de telles nuits que, tandis que le train m'emportait à toute vitesse vers les pays désirés, j'apercevais au carreau de la fenêtre le ciel rose au-dessus des bois. Alors, on se promet de voyager sans cesse. Et maintenant, ce désir me revenait. J'aurais voulu revoir devant ce même ciel, cette gorge sauvage du Jura et la petite maison de la gare qui ne connaît que le tournant qui passe à côté d'elle. Mais ce n'est pas tout ce que j'aurais voulu y voir. Là, le train s'arrêta et comme je me mettais à la fenêtre où entrait une odeur de brouillard de charbon, une fille de 16 ans, grande et rose, passait sur le quai offrant du café au lait fumant. Le désir abstrait de la beauté est fade, car il l'imagine d'après ce que nous connaissons. Il nous montre l'univers fait et terminé devant nous. Mais une nouvelle fille belle nous apporte précisément quelque chose que nous n'imaginons pas. Ce n'est pas la beauté, quelque chose de commun à d'autres, c'est une personne. Quelque chose de particulier, quelque chose d'individuel, avec qui nous voudrions mêler notre vie. Je lui criais « Du café au lait !» Elle ne m'entendit pas. Je voyais s'éloigner cette vie où je n'étais pour rien, ses yeux qui ne me connaissaient pas, hélas, ses pensées où je n'existais pas. Je l'appelais, elle m'entendit. Elle se retourna, sourit, vint. Et tandis que je buvais le café au lait, tandis que le train allait partir, je fixais ses yeux. Il ne me fuyait pas, fixant aussi les miens avec une certaine surprise, mais où mon désir croyait voir de la sympathie, que j'aurais voulu capter sa vie, voyager avec elle, avoir à moi son corps, au moins son attention, son temps, son amitié, ses habitudes. Il fallait se presser, le train allait partir, je me dis, je reviendrai demain. Et maintenant, après 2 ans, je sens que je retournerai là-bas, que je tâcherai d'habiter dans le voisinage et au petit jour, sous le ciel rose, au-dessus de la gorge sauvage, je tâcherai d'embrasser la fille rousse qui me tend du café au lait. Il faisait maintenant grand jour, je voyais ces lueurs fantastiques d'or qui indiquent à ceux qui ouvrent leurs fenêtres que le soleil n'est pas levé depuis longtemps et qui font frémir les grands soleils de la campagne dans cette poussière d'or qu'ils ne reverront plus qu'au coucher, mais qui n'aura plus alors cette beauté d'espérance qui les fait se hâter de descendre dans le chemin encore silencieux. Parmi les visages féminins qui hantent sa mémoire, il en est un inoubliable, celui de sa mère. Suivons le narrateur dans ses voyages imaginaires et abordons avec lui dans une ville mythique, Venise. Le jeune homme se souvient du séjour idyllique qu'il y a passé à l'automne 1900 en compagnie de sa mère et d'amis avec qui il a visité la péninsule. Cette réminiscence du passé lui procure une joie particulière, comme il l'explique dans les pages suivantes. Tout commence par l'éclat d'un rayon de soleil sur le bord de sa fenêtre. À ce moment, je vis palpiter sur l'appui de la fenêtre une pulsation sans couleur ni lumière, mais à tout moment enflée et grandissante, et qu'on sentait qu'il allait devenir un rayon de soleil. Et en effet, au bout d'un instant, je vis cette lumière croître d'intensité par une progression rapide mais incessante et soutenue, comme cette note de musique sur laquelle finit souvent une ouverture. L'avenue est vilaine en face de la fenêtre. Entre les arbres dépouillés par l'automne, on voit ce mur qu'on a repeint en rose trop vif et sur lequel on a collé des affiches jaunes et bleues. Mais le rayon a brillé. Il enflamme toutes ses couleurs, les unit. Il édifie pour les yeux un palais aussi enchanté, de teintes aussi ardentes que Venise. D'innombrables souvenirs indistincts les uns derrière les autres, jusqu'au fond de mon passé, ressentaient l'impression de ce rayon de soleil en même temps que mes yeux d'aujourd'hui et donnaient à cette impression une sorte de plénitude. de réalité faite de toute cette réalité de ces journées aimées, consultées, senties dans leur vérité, dans leur promesse de plaisir, dans leur battement incertain et familier. Peut-être aussi ces impressions me permettent cette chose délicieuse, avoir un plaisir d'imagination. Un plaisir irréel, le seul plaisir des poètes, le seul vrai plaisir des poètes. Dans une minute de réalité, elles me permettent une des rares minutes qui ne soit pas décevante. Et de cette impression, et de toutes ces semblables, quelque chose qui leur est commun se dégage, quelque chose dont nous ne saurions pas expliquer la supériorité sur les autres réalités de notre vie, celle même de l'intelligence, de la passion et du sentiment. Mais cette supériorité est si certaine que c'est à peu près la seule chose dont nous ne pouvons pas douter. Au moment où cette chose, essence commune de nos impressions, est perçue par nous, nous éprouvons un plaisir que rien n'égale, pendant lequel nous savons que la mort n'a aucune espèce d'importance. Depuis, je l'ai revu bien souvent, cet éclat du soleil de 10h du matin, plaqué sur l'ange d'or du campanile de Saint-Marc quand on ouvrait sur la petite calée ma fenêtre du palazzo. Puis venait l'heure tant attendue. À chaque midi, quand ma gondole me ramenait pour l'heure du déjeuner, souvent j'apercevais de loin le châle de maman posé sur la balustrade d'albâtre avec un livre qui le maintenait contre le vent et au-dessus, les lobes circulaires de la fenêtre s'épanouissaient comme un sourire, comme la promesse et la confiance d'un regard ami.
Thank you.
C'était le premier mouvement de la sonatine de Maurice Ravel. De retour dans sa chambre, le narrateur se souvient des conversations d'autrefois avec sa mère. C'est à elle qu'il avait confié pour la première fois son projet d'écrire contre Sainte-Beuve. Le célèbre critique passe sa vie dans les salons littéraires à défendre des auteurs mineurs et passe à côté des plus grands talents de son siècle. Gérard de Nerval, qu'il traite de commis voyageur, Honoré de Balzac, qu'il trouve vulgaire, Stendhal, qu'il juge détestable. Avec sa manie des catégories scientifiques, Proust dira de lui qu'il est le Buffon de la critique. Entrons à présent dans le cœur du débat. Voici comment Proust résume la fameuse méthode de Sainte-Beuve qui consiste, rappelons-le, à juger une œuvre d'après la vie de son auteur. La littérature, disait Sainte-Beuve, n'est pas pour moi distincte ou du moins séparable du reste de l'homme. Tant qu'on ne s'est pas adressé sur un auteur un certain nombre de questions et qu'on n'y a pas répondu ne fût-ce que pour soi seul et tout bas, on n'est pas sûr de le tenir tout entier, quand même ces questions sembleraient les plus étrangères à la nature de ses écrits. Que pensait-il de la religion? Comment était-il affecté du spectacle de la nature? Comment se comportait-il sur l'article des femmes, sur l'article de l'argent? Était-il riche, pauvre? Quel était son régime, sa manière de vivre journalière? Quel était son vice ou son faible? Aucune réponse à ces questions n'est indifférente pour juger l'auteur d'un livre et le livre lui-même, si ce livre n'est pas un traité de géométrie pure et si c'est surtout un ouvrage littéraire, c'est-à-dire où il entre de tout. L'œuvre de Sainte-Beuve n'est pas une œuvre profonde. La fameuse méthode qui en fait, selon Taine et bien d'autres, le maître inégalable de la critique du XIXe siècle, cette méthode qui consiste à ne pas séparer l'homme et l'œuvre, cette méthode méconnaît ce qu'une fréquentation un peu profonde avec nous-mêmes nous apprend, qu'un livre est le produit d'un autre moi, que celui que nous manifestons dans nos habitudes, dans la société, dans nos vices. Ce moi-là, si nous voulons essayer de le comprendre, c'est au fond de nous-mêmes, en essayant de le recréer en nous, que nous pouvons y parvenir. Rien ne peut nous dispenser de cet effort de notre cœur. En aucun temps, Sainte-Beuve ne semble avoir compris ce qu'il y a de particulier dans l'inspiration et le travail littéraire. Dans l'occupation littéraire, nous nous remettons face à nous-mêmes. Nous tâchons d'entendre, de rendre le son vrai de notre cœur. En réalité, ce qu'on donne au public, c'est ce qu'on a écrit seul, pour soi-même. C'est bien l'œuvre de soi, mais du moi profond qu'on ne retrouve qu'en faisant abstraction des autres. Le moi qu'on sent bien le seul réel et pour lequel seuls les artistes finissent par vivre, comme un Dieu qu'ils quittent de moins en moins et à qui ils ont sacrifié une vie qui ne sert qu'à l'honorer. Sainte-Beuve continuera à ne pas comprendre ce monde unique, fermé, sans communication avec le dehors, qu'est l'âme du poète. Et pour ne pas avoir vu l'abîme qui sépare l'écrivain de l'homme du monde, pour ne pas avoir compris que le moi de l'écrivain ne se montre que dans ses livres, il inaugurera cette fameuse méthode qui est sa gloire et qui consiste à interroger avidement pour comprendre un poète, un écrivain, ceux qui l'ont connu et qui pourront nous dire comment il se comportait sur l'article des femmes, etc. C'est-à-dire précisément sur tous les points où le moi véritable du poète n'est pas en jeu. Comme tous les philosophes, il n'a pas su trouver ce qu'il y a d'indépendant de toute science dans l'art. Il est obligé de s'imaginer l'art, la critique, comme des sciences, où le prédécesseur est moins avancé que celui qui suit. Or, en art, il n'y a pas d'initiateur, de précurseur. Tout étant dans l'individu, chaque individu recommence, pour son compte, la tentative artistique ou littéraire. Et les œuvres de ses prédécesseurs ne constituent pas, comme dans la science, une vérité acquise. Un écrivain de génie aujourd'hui a tout à faire. Il n'est pas beaucoup plus avancé qu'Homère. Découvrons avec quel plaisir Marcel Proust s'amuse à prendre Sainte-Beuve à son propre jeu. Suivant les préceptes du littérateur, le narrateur révèle au grand jour la personnalité du célèbre critique qui s'avère être d'une grande lâcheté. En effet, celui-ci, qui se prétend être l'ami et le protecteur de Baudelaire, réagit avec couardise lorsque le poète l'appelle à son secours lors du procès des Fleurs du Mal en 1857. Une fois, au moment du procès de Baudelaire, Baudelaire implora une lettre de Sainte-Beuve le défendant. Sainte-Beuve trouva que ses attaches avec le régime impérial le lui interdisaient et se contenta de rédiger anonymement un plan de défense dont l'avocat était autorisé à se servir, mais sans nommer Sainte-Beuve. Cependant, il avait adressé à Baudelaire une lettre sur les Fleurs du Mal qui a été reproduite dans la presse. Il commence par remercier Baudelaire de sa dédicace, ne peut pas se décider à dire un mot d'éloge, dit que c'est triste, affligeant, mais que Baudelaire le sait bien, cela dure ainsi pendant une page, sans qu'un seul adjectif laisse supposer si Sainte-Beuve trouve le livre bien. Enfin, vers le milieu de la seconde page, il se lance enfin une appréciation, je cite, « En faisant cela avec subtilité, première appréciation mais qui peut se prendre en bien ou en mal, avec raffinement, avec un talent curieux, c'est le premier éloge, si c'en est un, il ne faut du reste pas être difficile, ce sera à peu près le seul, et de conclure paternellement, vous avez dû beaucoup souffrir, mon cher enfant. » Suivent quelques critiques, puis de grands compliments sur deux poèmes seulement, le sonnet « Tristesse de la lune » qui, je cite, « a l'air d'être d'un anglais contemporain de la jeunesse de Shakespeare » et à celle qui est trop sage, dont il dit « Pourquoi ce poème n'est-il pas en latin ou plutôt en grec ?» Puis il ajoute, mais encore une fois, il ne s'agit pas de compliments à quelqu'un qu'on aime. Quand on sait qu'il a passé sa vie à en faire à tant d'écrivains sans talent, avec Sainte-Beuve, que de fois est-on tenté de s'écrier « quelle vieille bête ou quelle vieille canaille ». À propos des élections à l'Académie, Sainte-Beuve fit un article sur les diverses candidatures. Baudelaire était candidat. Sainte-Beuve parla en ces termes charmants et brefs des Fleurs du Mal. Ce petit pavillon que le poète s'est construit à l'extrémité du Kamtchatka littéraire, j'appelle cela la folie Baudelaire. Toujours des mots que les hommes d'esprit peuvent citer en ricanant. Et il termina par ces mots inouïs. Ce qui est certain, c'est que Monsieur Baudelaire gagne à être vu, que là où on s'attendait à voir entrer un homme étrange, excentrique, on se trouve en face d'un gentil garçon, fin de langage et tout à fait classique dans les formes. Je ne peux pas croire qu'en écrivant ces mots, gentil garçon, gagne à être connu, classique dans les formes, Sainte-Beuve n'ait pas cédé à cette espèce d'hystérie de langage qui par moments lui faisait trouver un irrésistible plaisir à parler comme un bourgeois qui ne sait pas écrire. Je ne peux pas penser qu'il a été tout de même un grand critique, celui qui, ayant parlé si abondamment de tant d'imbéciles, a écrit sur Baudelaire seulement ces quelques lignes. À la fin de sa vie, Baudelaire avait de grands cheveux blancs qui lui donnaient l'air, disait-il, d'un académicien à l'étranger. Il a surtout, sur ce dernier portrait, une ressemblance fantastique avec Hugo, Vigny et le comte de Lille. Comme si tous les quatre n'étaient que des épreuves un peu différentes d'un même visage. Du visage de ce grand poète qui, au fond, est un, depuis le commencement du monde, dont la vie intermittente, aussi longue que celle de l'humanité, eut en ce siècle ces heures tourmentées et cruelles que nous appelons vie de Baudelaire, ces heures laborieuses et sereines que nous appelons vie de Hugo, ces heures vagabondes et innocentes que nous appelons vie de Gérard de Nerval, ces égarements de la vérité que nous appelons vie de Chateaubriand et de Balzac. Évoquons à présent l'œuvre de Balzac, dont les héros de la recherche seront de grands lecteurs. Après Baudelaire, Marcel Proust défend le romancier contre l'étroitesse de vue de Sainte-Beuve. Du génie de la comédie humaine, L'écrivain retiendra et s'inspirera de deux grandes idées. L'importance du style, qui définira l'œuvre à venir, et cette invention audacieuse, la résurgence des mêmes personnages d'un roman à l'autre. Chez Balzac, Proust découvre également un sous-texte qui le touche particulièrement, la question de l'homosexualité. Aimer Balzac. Sainte-Beuve, qui aimait tant définir ce que c'était que d'aimer quelqu'un, aurait eu là un joli morceau à faire. Or, Sainte-Beuve s'est trompée là du tout au tout. Ce style si souvent chatouilleux et dissolvant, ce style d'une corruption délicieuse. Rien n'est plus faux. Dans Balzac, au contraire, coexistent, non digérés, non encore transformés, tous les éléments d'un style à venir qui n'existe pas. Il ne cache rien, il dit tout. Aussi est-on étonné de voir que, cependant, il y a de beaux effets de silence dans son œuvre. Goncourt s'étonnait pour l'éducation, moi je m'étonne bien plus des dessous de l'œuvre de Balzac. Ce même homme, qui étale naïvement ses vues historiques, artistiques, etc., cache le plus profond des dessins et laisse parler d'elle-même la vérité de la peinture du langage de ses personnages si finement qu'elle peut passer inaperçue. Mais tout, depuis la manière dont Vautrin arrête sur la route Lucien de Rubempré, qu'il ne connaît pas et dont le physique seul a donc pu l'intéresser, jusqu'à ses gestes involontaires par lesquels il lui prend le bras, ne trahit-il pas le sens très différent et très précis des théories de domination, d'alliance à deux dans la vie, dont le faux chanoine colore aux yeux de Lucien et peut-être au sien même une pensée inavouée? Mais le plus beau sans contexte, est le merveilleux passage où les deux voyageurs passent devant les ruines du château de Rastignac. J'appelle cela la tristesse d'Olympio de l'homosexualité. Il voulut tout revoir, l'étang près de la source. Vautrin n'a pas été le seul à aimer Lucien. Oscar Wilde, à qui la vie devait hélas apprendre plus tard qu'il est de plus poignante douleur que celle que nous donnent les livres, disait à l'époque de sa jeunesse brillante « Le plus grand chagrin de ma vie, la mort de Lucien de Rubempré dans Splendeur et misère des courtisanes. » Il y a d'ailleurs quelque chose de particulièrement dramatique dans cette prédilection et cet attendrissement d'Oscar Wilde. On ne peut s'empêcher de penser que quelques années plus tard, il devait être Lucien de Rubempré lui-même, et la fin de Lucien à la prison de la Conciergerie, voyant toute sa brillante existence mondaine écroulée sur la preuve qui est faite qu'il vivait dans l'intimité d'un forçat, n'était que l'anticipation de ce qui devait précisément arriver à Wilde. Chaque mot, chaque geste a ainsi des dessous dont Balzac n'avertit pas le lecteur et qui sont d'une profondeur admirable. Il relève d'une psychologie si spéciale et qui, sauf par Balzac, n'a jamais été faite par personne. De tels effets ne sont guère possibles que grâce à cette admirable invention de Balzac d'avoir gardé les mêmes personnages dans tous ses romans. Ainsi, un rayon détaché du fond de l'œuvre, passant sur toute une vie, peut venir toucher de sa lueur mélancolique et trouble cette gentilhommière de Dordogne et cet arrêt de deux voyageurs. Sainte-Beuve n'a absolument rien compris à ce fait de laisser les noms aux personnages. Il écrit « Rien ne nuit plus à la curiosité et à ce charme de l'inconnu qui fait l'attrait du roman. On se trouve à tout bout de champ en face des mêmes visages. » C'est l'idée de génie de Balzac que Sainte-Beuve méconnaît là. Les ajouts, ces beautés rapportées, les rapports nouveaux, aperçus brusquement par le génie entre les parties séparées de son œuvre, qui se rejoignent, vivent et ne pourraient plus se séparer, ne sont-ce pas ses plus belles intuitions? C'est un rayon qui a paru, qui est venu se poser sur diverses parties jusque-là ternes de sa création, les a unis, fait vivre, illuminés. Sainte-Beuve appelle cela un pêle-mêle effrayant. Or, c'était cela la grandeur même de Balzac.
Thank you.
C'était le troisième mouvement de la sonatine de Maurice Ravel. La chambre du narrateur se transforme soudain en lanterne magique. Et voici qu'apparaissent les personnages qui viendront peupler la recherche. Monsieur de Quercy, futur Charlus, la marquise de Cadeillac, future Gilberte. Mais surtout, c'est le domaine des Guermantes qui lui apparaît, comme par enchantement. Voici la carte postale imaginaire que le narrateur adresse à sa mère en guise d'adieu dans un ultime tête-à-tête plein de tendresse. Car dans la recherche, le personnage de la mère s'effacera pour laisser place à la légendaire grand-mère. Et le vrai sujet de Proust se dessine, la quête du temps retrouvé. Les choses sont moins belles que le rêve que nous avons d'elles. Te souviens-tu comme tu recevais avec plaisir les simples cartes si heureuses que je t'envoyais de Guermantes ? Je ne t'ai jamais raconté Guermantes. Eh bien, ce que je cherchais à Guermantes, je ne l'y ai pas trouvé, mais j'y ai trouvé autre chose. Ce qui est beau à Guermantes, c'est que les siècles ne sont plus. C'est que les siècles qui ne sont plus y essayent d'être encore. Le temps y a pris la forme de l'espace, mais on le reconnaît bien. On sent bien qu'on traverse du temps, comme quand un souvenir ancien nous revient à l'esprit. Ce n'est plus dans la mémoire de notre vie, mais dans celle des siècles. Quand on s'y promène, on sent que les choses qui sont là ne sont que l'enveloppe d'autres, que la réalité n'est pas ici, mais très loin, que ces choses touchées ne sont qu'une figure du temps, et l'imagination travaille sur Guermantes vues comme sur Guermantes lues, parce que toutes ces choses, ce ne sont encore que des mots pleins de magnifiques images et qui signifient autre chose. C'est l'antique forêt de Guermantes où chassait Childebert, et vraiment, comme dans ma lanterne magique, comme dans Shakespeare ou dans Maeterlinck, à gauche, il y a une forêt. Et les tours du château sont encore, je ne te dis pas de ce temps-là, mais dans ce temps-là. C'est ce qui émeut en les regardant. On dit toujours que les vieilles choses ont vu bien des choses depuis et que c'est le secret de leur émotion. Rien n'est plus faux. Regarde les tours de Guermantes. Elles voient encore la chevauchée de la reine Mathilde, leur consécration par Charles le Mauvais. Elles n'ont plus rien vu depuis. L'instant où vivent les choses est fixé par la pensée qui les reflète. C'est comme cela que je les voyais, les tours, quand je rentrais des promenades du côté des Guermantes et que tu ne devais pas venir me dire bonsoir dans mon lit. Alors, j'avais eu ce besoin que j'avais alors, ma petite maman, et que personne ne pouvait entendre, d'être près de toi et de t'embrasser. Et comme les hommes sont moins courageux que les enfants, j'ai fait ce que j'aurais fait si j'avais osé les jours où tu venais de quitter Combray. J'ai pris le train. J'ai heurté dans ma tête toutes les possibilités de prendre le train du soir, les résistances qu'on m'opposerait peut-être parce que on ne comprendrait pas ma volonté sauvage, mon besoin de toi comme un besoin d'air quand on étouffe. Mais mon petit loup, il faut nous faire un cœur plus dur que cela, me dit maman d'une voix troublée. Qu'est-ce que tu aurais fait si ta maman était partie pour des mois, pour des années, pour... Nous nous taisons tous les deux. Il ne s'était jamais agi entre nous de nous prouver que chacun aimait l'autre plus que tout au monde. Nous en avons jamais douté. Il s'est agi de nous laisser croire que la vie serait supportable à celui qui resterait seul. Je lui ai pris la main presque avec calme. Je l'embrassai et lui dis « Tu sais comme je suis malheureux les premiers temps où nous sommes séparés. Je suis fou les 8 premiers jours. Après cela, je resterai bien seul des mois, des années, toujours. » J'ai dit toujours. Mais le soir, à propos de toute autre chose, je lui ai dit que, contrairement à ce que j'avais cru jusqu'ici, les âmes étaient immortelles et qu'elles étaient un jour réunies. Comme après les adieux, la littérature se fait soudain silence. Par un long détour poétique, le narrateur a montré la supériorité des sensations, des impressions du passé sur toute tentative de raisonnement et de vaine critique. Incorrigible littérateur, Sainte-Beuve reste étranger pour toujours au mystère des émotions qui nous habitent. Ces émotions qui tentent de trouver un écho dans la phrase musicale et dans la phrase littéraire avant qu'il ne soit trop tard. Car le narrateur se sait menacé par la maladie. Ce que nous faisons, c'est remonter à la vie. C'est briser de toutes nos forces la glace de l'habitude et du raisonnement. C'est retrouver la mer libre. Les livres sont l'œuvre de la solitude et les enfants du silence. Les enfants du silence ne doivent rien avoir de commun avec les enfants de la parole, les pensées nées du désir de dire quelque chose, d'un blâme, d'une opinion. Car il n'y a qu'une manière d'écrire. C'est d'écrire sans penser à personne, pour ce qu'on a en soi d'essentiel et de profond. C'est bien ce que je reproche à Sainte-Beuve. Ses critiques, ce sont des mots qui font plaisir aux lèvres, au coin de la bouche et aux contreflots desquels l'esprit n'a pas le courage de remonter pour voir ce qu'il y a. La matière de nos livres, la substance de nos phrases, doit être immatérielle. Nos phrases elles-mêmes doivent être faites de la substance transparente de nos minutes les meilleures, où nous sommes hors de la réalité du présent. C'est de ces gouttes de lumière cimentées que sont faits le style et la fable d'un livre. J'aimerais confier le mot de la fin à quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma vie. Il s'agit d'une adolescente qui, dans son journal intime, à la date du 8 septembre 89, évoque sa découverte de Proust. Elle a 19 ans. Je lis du côté de chez Swann. Que dire ? C'est absolument éblouissant, mais d'une frivolité presque écorchée vive. Je veux dire qu'on sent chez Proust une sensibilité excessive et douloureuse. Mais quel génie du langage! Quel fantastique paradis retrouvé de mots, de vocabulaire! Quelle richesse étouffante! Aussi, quelle senteur fanée de désillusion! Et j'oserais rajouter, de temps perdu à vivre. C'est un livre pour la mémoire et l'embaumement. Les aubépines, la poésie ininterrompue, la précision des descriptions, je mélange tout. Un goût amer est peut-être à découvrir dans la suite de la recherche. Il doit y avoir un passage où Proust se trahit tout à fait. Je le trouverai. Et là, il y aura mon miracle à moi, à côté de tous les autres talents et engouements proustiens reconnus. Je crois qu'à l'évidence, lire Proust demande de cheminer avec lui, de vivre l'existence du narrateur et parallèlement de faire son propre chemin initiatique. Très simple. Et à mon avis, inévitable. On ne peut pas rester insensible à cette lecture. Dans l'imaginaire de chacun, il y a une démarche équivalente à ce chef-d'œuvre, mais il est tu. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestudia avec à la technique toute l'équipe du studio 104 que je salue et que je remercie chaleureusement. Vincent Combette, Jean-Baptiste Etcheparbord, Mathieu Leroux, Romain Lenoir, Pierrick Charles, Maxime Bayol, Ghislain Sanchez. Cette émission a été préparée par Estelle Gap, Fanny Leroy et Claire Tesser. C'était ce soir l'avant-dernière émission de « Ça peut pas faire de mal ». Il y a 10 ans, Philippe Val, que j'embrasse et que je ne remercierai jamais assez, m'a invité à rejoindre cette merveilleuse antenne du service public qu'est France Inter. Je lui ai demandé, mais pour y faire quoi ? Il m'a répondu, ce que vous voulez. Ah ! Et l'idée vous est venue comment ? Eh bien, c'est Raphaël Antoven qui m'a donné votre livre audio de Proust en disant, écoute ça. Ah ! Ben alors faisons ça, lisons. Lisons alors. Et j'ai lu. Et j'ai lu, et j'ai découvert des auteurs surprenants, j'ai été ému, j'ai été en colère, j'ai éclaté de rire. Bref, j'ai pris un plaisir immense à partager avec vous, chers auditeurs, ces textes sur le ton de l'instantanéité. Mais voilà qu'après près de 400 émissions, j'entends ma voix comme un doux ronron, mais qui pourrait devenir dangereux s'il s'installe trop, si la fraîcheur cède à l'habitude. Et il est donc temps pour moi de tirer ma révérence. Rassurez-vous, jusqu'en juin, vous pourrez continuer à écouter chaque samedi une sélection d'émissions dont l'essentiel n'a jamais été podcastable, joli verbe. Et pour la dernière émission, qui sera diffusée samedi prochain, je vous offre une avant-première consacrée à cette adolescente que je vous citais en conclusion tout à l'heure, ma cousine Alicia Gallienne, dont un recueil de poèmes intitulé « L'autre moitié du songe m'appartient » paraîtra à titre posthume le 6 février prochain chez Gallimard. Merci au réalisateur Xavier Pestugia, autrement appelé Marols. Oui, cet homme, c'est une Rolls. Merci aussi à Estelle Gap qui a, comme lui, tenu et m'a supporté pendant plus de 10 ans en faisant un travail remarquable et avec une immense gentillesse. Un grand merci aux autres assistantes qui m'ont accompagné, Laura Elmaki, Leila Kouroselikoua, Perrine Malinche, Fanny Leroy, Claire Tesser, Irène Menahem, Valérie Bourg, Isor Pisani-Ferry, Elodie Royer. Merci également aux techniciens de Radio France, vous êtes de loin les meilleurs. Merci à Laurence Bloch, l'ami, et aux équipes de France Inter. Enfin et surtout un immense merci rempli de gratitude à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité et votre enthousiasme qui nous ont portés tout ce temps. Et bien sûr, comment les oublier ? Un grand merci à toutes celles et ceux, amis, comédiens, écrivains, magnifiques artistes qui m'ont fait l'honneur de lire avec moi au fil des ans. Je sais que Laurent Godet, Catherine Salvia, Judith Magre, Laurence Stocker sont dans la salle. Merci à vous, merci à tous les copains de la Comédie Française qui sont venus lire régulièrement. Merci à Félix Marès d'avoir été notre tourneur de page ce soir. Un immense merci à vous, Alexandre Tarot, pour avoir si admirablement porté en musique les mots de Marcel Proust, donc avec Ravel, la sonatine et... tout le long de l'émission, Ronaldo Hahn. On vous retrouve, Alexandre Tarot, vendredi 7 février à l'auditorium de Radio France dans le cadre du festival Présence. Bonne soirée, merci, merci, merci beaucoup et à la semaine prochaine.